Frères et sœurs, les trois lectures de ce matin nous parlent toutes d'une même promesse faite par Dieu non seulement au peuple juif, mais aussi, pour reprendre les termes de Paul, à ceux qui sont animés par l'Esprit et qui lui appartiennent. Les trois lectures nous assurent que les promesses de Dieu sont certaines. Elles se réalisent toujours, même les plus incroyables. Elles se réalisent, nous dit un de nos passages, pour la plus grande gloire de Dieu, afin que nous reconnaissions que lui, l'Éternel, parle et agit. Et elles se réalisent enfin parce que ce Dieu Tout-Puissant nous aime d'un amour éternel. Dans la lecture de l'Ancien Testament, il est question de retour à Jérusalem, véritable résurrection du peuple hébreu. Israël est découragé et ne veut pas croire en une résurrection possible, en une fin de la situation qui est la sienne. En effet, il est tel un mort enfermé dans son tombeau à Babylone. Et cette situation est, selon lui, définitive. Le royaume qui le tient en son pouvoir est si puissant qu'il ne reverra jamais son pays. Il ne reste plus finalement que l'assimilation pour adoucir la peine, devenir en quelque sorte de bons Babyloniens. Mais voilà, Dieu, lui, il annonce la fin de cet exil. Son plan prévoit le retour d'Israël dans son pays, le retour à Jérusalem, la reconstruction du temple. Et manifestement, les paroles d'Ézéchiel ne sont pas prises au sérieux par les exilés. Alors pour les convaincre, l'Éternel offre à son prophète la vision des ossements desséchés dans le désert. C'est le passage qui précède immédiatement les deux versets que nous avons entendus. Votre retour à la vie vous semble aussi peu probable que ces ossements desséchés. Eh bien, voyez, par ma parole, au travers de la bouche de mon prophète, ils redeviennent chairs et reviennent à la vie. À Dieu, rien n'est impossible, et tel un film défilant en sens inverse, défilant à reculons, Ézéchiel voit le retour de ses os à leur situation d'être vivant. Prophétie pour Israël, mais aussi prophétie pour le peuple de Dieu du XXIe siècle. C'est la promesse que Dieu sauve, que Dieu délivre notre corps et notre âme de la mort. Dans l'Ancien Testament, dans notre lecture d'Ézéchiel, c'est Dieu qui conduit le dialogue. Il pose les questions et donne les réponses. Il nous incite à la réflexion et conduit nos pensées. Il nous pousse à nous examiner nous-mêmes. À propos de notre condition, Paul le répète dans le passage de l'Épître de ce dimanche, « Votre corps est mort à cause du péché ». Voilà notre situation, et cela semble aussi sans avenir. Nous pourrions essayer de trouver un chemin pour nous rendre présentables aux yeux de Dieu, mais nous serions vite amenés à reconnaître « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Romains 7, verset 19. Bref, nous ressemblons aux ossements de la vision d'Ézéchiel. Lorsque j'ai vu les propositions d'images illustrant ce thème, et qui normalement se trouvent sur l'un ou l'autre de nos sites, je me suis dit, tous ces crânes dans un air lugubre, c'est peut-être un peu exagéré. Mais finalement, non. Il faut savoir regarder en face ce que nous sommes. Et la question posée par l'Éternel au verset 3 de ce chapitre 37 devient la plus importante pour notre avenir. Ces os pourront-ils revivre? Et à chacun de nous, ce matin, Dieu répond par l'affirmative. Et il en fait la démonstration. Comme c'est le cas pour toute prophétie, il y a toujours plusieurs réponses, plusieurs explications. La sortie du tombeau annoncée pour Israël était le retour à une vie politique et sociale qui rendrait la nation de nouveau indépendante, en tout cas dans une certaine mesure. Elle retrouverait une certaine emprise sur sa propre destinée. Et pour nous, quelle promesse renferme-t-elle ? Peut-être sommes-nous anéantis par notre vie, par le poids de notre misère. Peut-être sommes-nous déçus par l'existence. Peut-être nous sentons-nous prisonniers de situations que nous ne contrôlons plus et desquelles nous sommes incapables de nous affranchir. Et nous avons l'impression que cela est irréversible et que nous sommes pour toujours comme enterrés vivants. Eh bien, Dieu nous dit encore ce matin, « Non, j'ouvre vos tombes, je vous ramène sur la terre et je vous donnerai du repos. » Il annonce un chemin de vie, une espérance. Il proclame que le pire peut prendre fin et que, sous sa conduite, nous irons vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles, où il restaurera notre âme, comme le dit le psalmiste. Tous, nous traversons ce genre de champ de mort, nos déserts. Et c'est en quelque sorte un message pour aujourd'hui, un message pour maintenant. Mais il y a plus. Il y a aussi dans nos lectures un message pour demain, une bonne nouvelle qui concerne notre futur. Nous savons qu'un jour nous quitterons cette vie et qu'il nous faudra laisser ce monde derrière nous. Alors dans ce cadre, quelle est notre espérance? Quelle est notre perspective? Notre groupe de maison parcourt actuellement le livre de l'Ecclésiaste. C'est un recueil peu connu finalement, parce qu'il ne respire pas la joie de vivre, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'en retient en général que des maximes, des slogans du style « tout est vanité » ou bien « la vie est un éternel recommencement », etc. Et l'auteur, au travers des expériences de vie qu'il a eu l'occasion de mener, nous livre des pensées qui paraissent sombres, désespérantes même parfois. À quoi sert-il de vivre ? Pourquoi travailler et réaliser des projets? Nous n'en retirerons rien pour nous-mêmes, ou si peu de choses. Et ceux qui pourraient éventuellement en profiter, comment le feront-ils? Avec sagesse ou sans discernement? Bref, ce livre est une parfaite illustration de la parole du Christ à la Samaritaine au puits de Jacob. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Il résume bien le propos et la question que je pose ici. Quelle perspective pour nous ? Mort et enterré ? Décomposé et oublié ? Fin de l'histoire ? La parole de notre Dieu est une parole de vie qui vaut encore pour ceux qui la lisent aujourd'hui. Et ce que Dieu dit aux Israélites au travers de la bouche d'Ézéchiel, il le répète encore à ses enfants aujourd'hui. « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Avec une tranquille assurance, nous aussi, nous pouvons affirmer, comme nous l'avons fait d'ailleurs, « Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. » Notre passage de l'Évangile aussi nous parle d'un retour à la vie. Nous assistons là au plus grand des miracles de Jésus. L'apôtre Jean, pour qui les miracles sont des signes de la puissance de Dieu, qui ont pour but de susciter ou d'augmenter la foi des disciples, en raconte sept, choisis avec soin pour leur force symbolique. Et le dernier signe relaté dans son Évangile, et justement cet événement que nous avons entendu, la résurrection de son ami Lazare. Et par là, Jean annonce à la veille de la passion du Christ sa mort et sa résurrection. Comme souvent chez Jean, c'est à un acte de foi que le Seigneur invite tous ceux qui sont à sa suite. Le but du délai que Jésus s'impose avant de revenir à Béthanie, malgré l'impulsion de son cœur aimant, est de susciter chez ses disciples une foi plus grande. Mais cette foi n'est pas l'adhésion à une doctrine de l'immortalité de l'âme. Elle n'est même pas la simple acceptation d'une doctrine de la résurrection au dernier jour, que pourtant Marthe, fidèle à son catéchisme, professe avec beaucoup de juifs. Il ne s'agit même pas de croire qu'il y a quelque chose après la mort, une autre vie, un ciel, un enfer, encore que tout cela soit vrai. Il ne s'agit même pas de croire que le Christ donne la vie éternelle et promet la résurrection. Mais il s'agit de croire que le Christ est la résurrection et la vie. C'est l'une des plus belles paroles prononcées par le Christ. Il ne dit pas qu'il possède la vie et la résurrection, mais qu'il l'est, en personne. Comme la Bible ne dit pas seulement que Dieu aime, mais qu'il est amour. Il détourne les yeux de Marie de l'épreuve et les axe sur lui, sur sa personne. Il est la résurrection et la vie. Ailleurs, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Ou encore « Que celui qui croira en lui ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle » le célèbre Jean 3, 16. En ressuscitant Lazare, c'est cela que Jésus essaye de faire comprendre à tous ceux qui sont présents et qu'il veut montrer à ses disciples en particulier. Il n'y a une promesse de résurrection et une promesse de vie éternelle que parce que maintenant tout cela est vrai en Jésus-Christ. Dans ce récit, notre espérance est intimement liée à sa personne, à la personne du Sauveur, en nous rappelant qu'il est dès maintenant, dans notre vie actuelle, celui qui nous ressuscite, qui nous fait naître de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu, au moment même où nous acquiesçons pleinement à sa parole. C'est le sens de cette parole de Jésus. « Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, verset 24. Et donc cette parole, « Lazare, sort », retentit avec force pour tout homme couché dans le tombeau du péché et de la mort spirituelle. Tout homme qui entend cet appel et qui se lève entre dès maintenant dans la vie et il reçoit la certitude et l'assurance qu'il ne mourra jamais. Certes, cela ne supprime pas ou ne supprimera pas la conséquence du péché, qui est la mort physique, ni l'accomplissement du plan de Dieu, la résurrection des morts au dernier jour. Mais le message de ce miracle est là pour nous interdire de rejeter dans un avenir lointain et inconnu ce qui est don actuel de Dieu, la vie éternelle accordée dès maintenant à quiconque croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. En même temps que Jésus fait la démonstration qu'il est le Fils de Dieu, il nous laisse voir qu'il n'ignore rien de la misère qui règne dans ce monde où il est venu. Je crois que vous ne trouverez aucun autre récit de l'Évangile où éclate plus clairement tout à la fois la gloire du Fils venu du Père et l'amour du Sauveur qui s'est fait homme et qui porte le poids de notre humanité. Nous y voyons Jésus aimé, non pas comme les hommes en général, non pas les hommes en général, mais ses amis personnels. Il se réjouit. Nous le voyons aussi s'indigner et frémir Pleurez comme tous ceux qui ont perdu un être cher et bien-aimé. À cause de cela, Jésus n'est pas seulement celui qui donne la vie éternelle et qui fait les promesses de résurrection, mais aussi et tout autant celui qui partage nos souffrances, compatit à nos douleurs, pleure avec nous et nous console. Cette humanité du Seigneur n'est pas un autre côté de sa personnalité, mais elle est parfaitement unie à sa majesté divine. Cela ressort clairement des derniers versets où le Christ est tout frémissant de douleur devant la souffrance des hommes, mais aussi d'indignation devant l'incompréhension des Juifs. Bien plus, il y a déjà là comme une annonce de la passion et de la victoire. Jésus est plein d'horreur et de tristesse devant la puissance de la mort, à laquelle il sait qu'il lui faudra bientôt se livrer. Mais en même temps, il est rempli de la puissance de Dieu, et c'est par cette puissance qu'il accomplit le miracle, prophétisant sa victoire définitive au matin de Pâques. C'est le mystère adorable de cette plénitude du Christ, vrai homme et vrai Dieu, mourant et ressuscitant. C'est son amour pour tous les hommes perdus sans lui et sauvés par lui que l'Église doit annoncer à tous ceux qui écoutent son message dans tous les siècles. Et ce message est « Le Maître est là et il t'appelle ». Oui, il appelle l'humanité jusqu'à ce que celle-ci, venant à Jésus, se jette pour toujours à ses pieds. Et cette dimension-là, nous pouvons aussi d'ailleurs la retrouver dans le texte de l'Ancien Testament. Quand le monde paraît sans vie et sans espérance, rappelons-nous que l'Esprit peut ressusciter ceux à qui nous annonçons l'Évangile. Dieu avait demandé à Ézéchiel, il ne l'a pas fait lui-même, mais Dieu avait demandé à Ézéchiel de prophétiser et d'annoncer sa parole. Cela signifie que de la bouche d'un homme ou d'une femme sortit une parole vivante et qui peut redonner la vie. Certes, le message ne sera pas toujours reçu, ni accepté avec joie. À côté des nombreux juifs qui ont cru, il y en a eu certains qui sont allés le dénoncer aux chefs religieux, hâtant leur décision de le tuer. Mais cela n'a pas empêché les disciples, et cela ne doit pas nous empêcher de transmettre ce message autour de nous. Frères et sœurs, nous sommes en route vers Pâques. Que notre Seigneur maintienne vivante dans nos cœurs la flamme de notre foi et notre assurance en ses promesses. Je vis et vous vivrez aussi. Amen.